L'Afrique achète des céréales russes et non les mensonges américains selon lesquels elles auraient été volées à l'Ukraine. Le résultat final est que les dernières fake news de l'Occident contrôlées par les États-Unis au sujet de la Russie ont complètement échoué après le refus de l'Afrique de céder à la pression américaine, visant donc à les empêcher d'acheter le blé de ce pays. Le New York Times a rapporté lundi que des responsables américains avaient mis en garde une poignée de pays africains à la mi-mai contre l'achat de ce qu'ils prétendaient être du grain que la Russie aurait volé à l'Ukraine. Le calendrier de ce rapport, plusieurs semaines après cet événement diplomatique, intervient après la rencontre entre le président de l'Union africaine et président sénégalais Macky Sall et le président russe Poutine à Sotchi vendredi dernier, au cours de laquelle il a dénoncé les sanctions anti-russes de l'Occident dirigées par les États-Unis qui, selon lui, contribue directement à l'insécurité alimentaire sur son continent. Cela a brisé le faux récit selon lequel Moscou aurait bloqué les ports ukrainiens et vendu le grain qu'il aurait volé à ce pays. Le dirigeant russe a également expliqué lors d'une interview télévisée plus tard, le même jour, comme la crise alimentaire mondiale est artificiellement fabriquée par l'Occident, ce qui a résumé ce que l'ambassadeur donc russe à l'ONU a longuement développé à la fin du mois dernier. Le président Poutine a rappelé à tout le monde que ce problème est en fait causé par les conséquences économiques de la réponse de l'Occident guidée par les États-Unis à la pandémie de Covid-19, du minage par l'Ukraine de ses propres ports et des sanctions anti-russes. L'approbation par le président de l'Union africaine de la dernière cause mentionnée de cette crise démystifie donc puissamment les mensonges de l'Amérique à ce sujet, car personne ne peut douter de manière crédible de la sincérité de ses paroles lorsqu'il représente les pays les plus directement touchés par cette crise. Ce n'est pas une coïncidence si aucun pays africain ne s'est joint aux sanctions anti-russes de l'Occident sous contrôle américain, pas même ceux dont les gouvernements ont été contraints par ce bloc à voter contre Moscou aux Nations Unies. Ils savent tous très bien que la Russie les a soutenus pendant leur lutte anticoloniale et les a aidés à reconstruire leur nation par la suite. Cette grande puissance eurasienne n'a jamais participé à la ruée vers l'Afrique et a toujours été l'alliée la plus fiable du continent. Et elle n'a jamais voulu affamer les Africains ni leur vendre des céréales volées. Au contraire, elle est absolument indispensable pour assurer la sécurité alimentaire de bon nombre de ces pays, raison pour laquelle elle leur envoie ses denrées en urgence. L'Occident sous contrôle américain, en revanche, a un passé méprisable de colonialisme, de néo-impérialisme et de bellicisme dans toute l'Afrique. Cette civilisation est tristement célèbre pour avoir tué d'innombrables personnes sur le continent au fil des siècles et en avoir réduit un nombre encore plus grand en esclavage. Elle ne jouit d'aucune confiance, mais est simplement un allié de complaisance pour beaucoup qui apprécient l'accès relativement ouvert au marché pour leurs exportations. D'autres, en revanche, sont dirigés par les leaders soutenus par l'Occident et véritablement impopulaires qui s'accrochent donc au pouvoir par la force. Et quant aux États stratégiquement autonomes qui ont défié la pression de l'Occident contrôlé par les États-Unis en refusant de condamner publiquement puis de sanctionner la Russie, Washington n'a jamais été aussi furieux contre eux. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Amérique a fabriqué artificiellement la crise alimentaire mondiale et répand maintenant de fausses nouvelles selon lesquelles la Russie aurait volé le grain ukrainien qu'elle expédie en Afrique. Washington veut punir ses gouvernements multipolaires en provoquant l'instabilité dans leur pays par la famine imminente qu'il est directement responsable de créer. Il espère que cela conduira soit à des révolutions de couleur et ou à des coups d'État militaire pour remplacer les dirigeants véritablement populaires et indépendants par des marionnettes étrangères, en particulier en Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui l'un des fronts les plus chauds de la nouvelle guerre froide. En réponse à cette menace de guerre hybride, les pays africains achètent avec empressement autant de produits agricoles russes que possible afin d'éviter que le scénario de changement de régime orchestré par les États-Unis ne soit indirectement favorisé par la crise alimentaire mondiale artificiellement fabriquée. Le résultat final est que les dernières fake news de l'Occident contrôlées par les États-Unis au sujet de la Russie ont complètement échoué après le refus de l'Afrique de céder à la pression américaine visant à les empêcher d'acheter le blé de ce pays. C'est pour cette raison que les MSM propagent donc maintenant le mensonge selon lequel le blé aurait été volé à l'Ukraine afin de discréditer ses États dans le tribunal de l'opinion occidentale, mais ils s'en moquent éperdument puisque la garantie de la sécurité alimentaire est naturellement leur priorité absolue. L'odieuse camisole de force anti-Poutine de la France néocoloniale pour mettre l'Afrique au pas avec l'aide de Washington. Au lieu de régler le problème russe directement avec la Russie, qui à travers menaces et ultimatums, sans oublier la réécriture à la Russie de l'histoire, invite depuis plus de 3 mois une véritable démonstration de force militaire, les États-Unis, donc qui ont préféré sacrifier l'Ukraine à la puissance de feu du Kremlin, ont décidé de tailler une belle camisole de force pour les Africains qui devront désormais renier leurs relations avec la Russie ou en répondre devant le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères américain. Ce n'est pourtant pas seulement en Afrique que l'on a observé les sons de cloche différents et divergents au sujet de l'opération militaire russe en Ukraine. Bien plus, les États-Unis qui continuent de commercer avec la Chine, allié officiel de Moscou, et avec la Turquie, pays membre de l'OTAN qui fait tout pour tordre le cou à tout ce qui pourrait affaiblir le maître du Kremlin dans le cadre de sa confrontation avec l'Occident. Mais seuls les pays d'Afrique sont obligés par les États-Unis de choisir, selon l'un des auteurs de ce projet de loi, indique donc Michael McCall, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, non pas entre les États-Unis et la Russie, mais carrément entre le monde libre, entendu incontestablement comme le bloc constitué des États-Unis et de leurs alliés, et le dirigeant russe Vladimir Poutine. Nous devons obliger chaque État à choisir entre faire des affaires avec le monde libre ou avec un criminel de guerre, déclarait-il lors de la présentation du projet de loi au Congrès le 31 mars dernier. Plus de 3 décennies après l'effondrement de l'ex-URSS, la Russie, successeur de l'ex-empire communiste, s'est réquinquée donc au point de redevenir la plus puissante armée du monde, réduisant les États-Unis, donc la première puissance militaire, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin des années 2000, à jouer les chiens qui aboient sans mordre, comme l'en témoigne donc l'application dérisoire, donc et très distante du pays de l'oncle Sam en Ukraine depuis le début de la guerre, de ce pays qui, donc, ce n'est un secret pour personne, n'est en réalité qu'une provocation directe des États-Unis et de ses alliés par le tsar Vladimir. Et ce sont les pays africains qui vont en faire les frais. Il y va donc un peu de leur faute, passez-nous donc cette digression, donc Karl Éternel, consommateur des produits et doctrines étrangers, toujours en train de s'émerveiller des exploits des autres, et pour la plupart dirigé par des satrapes plus préoccupés de s'éterniser au pouvoir, quitte à vendre aux pays symboliques leur pays aux étrangers en échange de quelques dérisoires protections, que de créer les conditions de l'émergence et de l'envol de leur pays vers les cimes de la puissance, donc militaire pourquoi pas, puisqu'il semble que l'on trouve aussi en Afrique les gisements de cet uranium qui sert pour la fabrication de la bombe atomique, alors que les pays de ce continent achètent encore jusqu'à leurs pistolets automatiques en Chine, en France, en Grande-Bretagne ou même donc au régime israélien. Donc regardez l'intervention donc du docteur Maurice Simojom, expert en géostratégie sur Equinox Télévision, émission La Vérité en Face du 20 mars. Les États africains se sont justement mis dans une situation délicate de petits toutous obligés de sautiller sur 2 pattes ou de courir après une ombre selon l'humeur du jour de leur maître du moment. En clair, avec la loi HR 73-11, d'abord adoptée à l'écrasante majorité de 419 voix contre 9 par la Chambre des représentants des États-Unis le 27 avril 2022 et finalement adoptée par le Congrès lors de sa 11e session en mai dans l'optique de contrecarrer ce qu'ils appellent les activités malveillantes de la Russie en Afrique. L'adage « l'histoire est un éternel recommencement » se vérifie dans toute son acuité et sa pertinence, faisant donc de ceux qui estimaient révolu le temps des manichéismes, donc obligation insidieuse, faite à l'Afrique de choisir ses fréquentations entre les deux blocs impérialistes engagés dans la cour à la domination du monde, de parfait ingénu. Car si Vladimir Poutine est accusé par les Occidentaux de n'avoir cure de précipiter le monde dans une autre guerre qui pourrait se révéler mondiale en cas d'utilisation par l'Ukraine des armes fournies par l'OTAN pour frapper en Russie, poussant celle-ci à faire usage de l'arme nucléaire, il semble que les États-Unis, à leur tour, soient en train de ramener l'Afrique à marche forcée vers donc la guerre froide à travers cette démarche visant à encadrer les relations du continent avec la Russie. Puis encore, c'est le petit espace de liberté engrangé depuis quelque temps par l'Afrique qui va se voir considérablement renié si l'on n'y prend garde, comme l'explique un philosophe, donc Franklin Niamsi, dans son post « Duel USA-Russie en Afrique », la résolution HR 7311 annonce des temps difficiles pour l'Afrique. Éradiquer donc la Russie pour monopoliser l'Afrique ou la marque de la France. La situation n'est cependant pas complètement désespérée car si les dirigeants africains restent encore prudents et évitent pour la plupart toute confrontation frontale avec les anciens maîtres du Nord ou d'Occident, donc la génération actuelle des peuples africains qui se veut la digne héritière des preux combattants de la liberté qui se battirent parfois jusqu'à la dernière goutte de sang pour les indépendances, monte à son tour depuis quelques années à l'assaut de leurs exploiteurs. Les manifestations houleuses contre l'utilisation de la monnaie coloniale française CFA dans certains pays ou celles appelant au départ des militaires français de certains pays africains comme le Mali, la Centrafrique, le Burkina, le Tchad ou le Cameroun ou proclamant le rejet de la France démontrent à l'envi que l'Afrique pense de plus en plus à ne plus se laisser dicter sa conduite. La réaction sèche du Zimbabwe face à la pression américaine ou la rencontre à Sochi le 3 juin entre le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, et le président de la Fédération de la Russie pour discuter de la sécurité alimentaire en Afrique, constitue non seulement la réaffirmation du non-alignement doctrinal de l'Afrique, mais également le pied de nez du continent à l'endroit des États-Unis et de son mandant, donc qui, selon de nombreux observateurs, userait juste de sa puissance réelle ou supposée pour aider la France à garder dans les rangs des pays d'Afrique francophones, tenter de s'émanciper et surtout de recourir à la Russie, elle-même désireuse d'agréger l'Afrique à sa zone d'influence planétaire pour atteindre cet objectif de leur libération de ce qu'ils considèrent comme la tyrannie férule française. Au Mali, les USA remplaceraient-ils la France ? Les États-Unis reconnaissent l'annonce par le gouvernement de transition du Mali d'un calendrier de transition de 24 mois à partir de mars 2022. Nous exhortons le gouvernement de transition malien à prendre des mesures soutenues et tangibles en vue de la tenue d'élections, y compris des repères détaillés et l'adoption rapide de la loi électorale, des processus transparents et inclusifs qui respectent les diverses perspectives et libertés fondamentales sont essentielles pour construire une base solide pour l'avenir. Nous nous félicitons de l'engagement de la CEDEAO à poursuivre son engagement donc avec les autorités maliennes afin de soutenir les efforts visant à rétablir le régime constitutionnel. Nous encourageons donc le Mali et la CEDEAO à parvenir à un accord en particulier sur un mécanisme de suivi robuste avec des critères de référence tangibles pour le reste de la transition. Les États-Unis réitèrent leur engagement à soutenir les processus de transition afin de favoriser un avenir de gouvernance démocratique responsable pour le peuple malien. L'espoir des 20 millions de Maliens donc a été une fois de plus brisé pour cause. Les chefs de la CEDEAO, donc dirigés apparemment par les États-Unis, réunis en sommet extraordinaire, n'ont pu décider ce samedi donc de la levée des dures sanctions économiques et financières sur leur pays. Les Maliens devraient encore patienter un mois, donc soit exactement le 3 juillet prochain, pour connaître le verdict du syndicat des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, à la veille de cet énième sommet, en réalité consacré sur l'épineuse situation malienne, mais que l'on a subtilement élargi aux situations du Burkina et de la Guinée, tous les observateurs et analystes politiques pariaient sur l'obtention d'un compromis entre la CEDEAO et le Mali. L'interview du président sénégalais Macky Sall quelques jours plus tôt, donc par Afrique Média TV, en était un présage. Et toutefois, contre toute attente, le communiqué final de la conférence des chefs d'État a préféré maintenir le statu quo sur la question malienne. Pas de décision forte, sans qu'aucune raison ne soit officiellement évoquée. Et pourquoi ? Si l'on se fie aux coulisses, les chefs d'État auraient été divisés, la majorité étant d'accord à ce que les sanctions soient levées, alors que trois États y étaient farouchement opposés. Ces derniers exigeant la fin de la transition malienne en 16 mois, on avance aussi que la majorité des pays pour la levée des sanctions étaient favorables pour 18 mois de prorogation, mais avec la composition d'un gouvernement de mission dirigé par un premier ministre neutre. Était-ce vraiment la pomme de discorde entre la CEDEAO ou le Mali, ou bien est-ce que tout cela ne veut pas dire qu'en réalité, une main invisible est en train de faire la guerre contre le Mali? En l'occurrence, lorsque l'on sait que l'embargo ne profite point aux pays de la CEDEAO voisins du Mali. La CEDEAO est financée en grande partie par la France, l'Union européenne et les États-Unis, alors que l'UMOA est un instrument économique et financier du Trésor français. Donc il y va sans dire que les sanctions imposées par les deux organisations ouest-africaines contre le Mali sont bien commanditées par la France et les États-Unis. D'ailleurs, ne soyons pas naïfs, Paris ne va jamais pardonner à Bamako d'avoir mis fin à la présence de ses forces militaires Barkhane et européennes Takuba sur le territoire national et dénoncer l'accord de défense qui liait les deux États, expulser son ambassadeur également. Donc pour renforcer sa coopération militaire et économique avec la Fédération de Russie. Nous en voulons pour preuve les propos du président de la Commission Défense et Affaires étrangères du Sénat français devant ses pairs, martelant en substance que le Mali va payer cher sa rupture d'avec la France. Mais avant ce sénateur arrogant et condescendant, le président Macron n'avait-il pas personnellement déclaré en fin décembre 2021 qu'il va demander, en réalité exiger, au chef d'État de la CEDEAO de punir la transition malienne ? Quid des États-Unis ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, avec la création de l'OTAN, ont vassalisé l'Europe occidentale. Actuellement, l'ensemble de l'Europe y est sous le joug américain et les États-Unis sont le garant des intérêts économiques et géostratégiques du monde occidental. N'est-ce pas pourquoi le Congrès américain, tout en reconnaissant que l'Afrique regorge de ressources naturelles minières et d'hydrocarbures dont l'Occident a besoin, a voté en avril dernier une loi qui autorise le gouvernement fédéral à punir par tous les moyens tout État et organisation du continent noir qui coopérerait militairement et économiquement avec la Fédération de Russie. Peut-on alors en déduire que le Mali soit le premier pays africain frappé par ces mesures de rétorsion ? À l'évidence, la réponse est affirmative. Ainsi, on peut admettre sans risque de se tromper que ce sont les États-Unis et la France qui sont réellement en guerre contre le Mali, mais par procuration, elle ordonne à la CEDEAO et l'UMOA d'imposer des sanctions économiques et financières contre le Mali afin d'amener la population qui en paye réellement les frais à se soulever contre les autorités de la transition. D'où les incessantes négociations infructueuses entre ces deux organisations sous-régionales et Bamako qui n'ont pour seul but que de produire le pourrissement du pouvoir transitionnel. Donc, ouais, attendons et voyons.
L'Iran et le Nigeria signent un protocole d'accord de coopération culturelle. Le chef de l'Organisation iranienne de la culture et de la communication islamique et le ministre nigérian des Affaires étrangères ont signé mercredi un protocole d'accord de coopération culturelle. En marge de la sixième réunion de la commission mixte Iran-Nigeria, un protocole d'accord a été signé par Mohamed Mehdi Imanpour, chef de l'Organisation iranienne de la culture et de la communication islamique, et le ministre nigérian des Affaires étrangères Zuberu Dada. Le protocole d'accord est destiné à renforcer la coopération entre les instituts culturels des deux pays et à améliorer la connaissance mutuelle des nations nigériennes et iraniennes. L'accord comprend l'échange d'expériences et d'expertise dans les arts virtuels, les arts du spectacle, la musique, le cinéma, l'architecture, les livres, la mode, la peinture et l'éducation culturelle et la participation d'artistes iraniens et nigérians à des festivals et des expositions. Huawei conclut un accord tripartite sur la coopération dans le cadre d'une initiative Campus Intelligent en Namibie. Le géant chinois des télécommunications Huawei facilitera la formation du personnel et des étudiants dans le cadre de son rôle dans un partenariat stratégique tripartite conclu avec l'Université des sciences et technologies de Namibie et MTC Namibia, une société de télécommunications mobiles et fournisseur de services Internet dans ce pays de l'Afrique du Sud-Ouest. S'exprimant jeudi lors de la cérémonie de signature dans la capitale namibienne Windhoek, le directeur général de Huawei, David Yu, a souligné que des enseignants connaissant bien la littérature numérique et formés à l'utilisation d'outils et de plateformes de technologie de l'information et de la communication auraient divers effets d'entraînement sur les étudiants. Conformément à l'accord tripartite, la coopération sera menée dans le cadre de l'accélération du développement d'un campus intelligent dans le pays. Le plan de modernisation des 5 principaux aéroports du Nigeria, dont celui d'Abuja, se poursuit. Les travaux qui s'exécutent pour rehausser les standards de ces plateformes devraient permettre de contenir le trafic qui connaît une croissance continue depuis quelques années. Le ministère de l'aviation civile nigériane a procédé le 8 juin 2022 à la remise physique d'un site de 12 000 hectares à l'entreprise chinoise China Civil Engineering Corporation pour la construction de la deuxième piste de l'aéroport international d'Abuja dans le centre du pays. Les travaux devraient durer 12 mois et nécessiteront un investissement de 92 milliards de naira, environ 221,5 millions de dollars. Le Kenya, qui souhaite devenir un pays industrialisé à revenus intermédiaires d'ici 2030, mise sur la construction d'infrastructures pouvant l'y aider. Un an après sa mise en activité officielle, le port de Lamu vient d'être doté d'une nouvelle infrastructure. Le Kenya a investi plus de 4,2 millions de dollars dans la construction d'un couloir de transport de bétail au port de Lamu. L'annonce a été faite par le secrétaire principal du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et des Coopératives, Harry Kimte, lors d'un point de presse dans les médias locaux ce jeudi 9 juin. En plus de l'infrastructure, le gouvernement a annoncé l'établissement d'un terrain d'attente à côté du port qui sera utilisé comme installation de quarantaine pour la certification des animaux destinés à l'exportation.